Les dossiers Construction 21, regard croisé sur le bâtiment et la ville durable.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro des dossiers de construction 21. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre de deux tables rondes, aborder le sujet de la santé et du bien-être dans nos bâtiments. À l'heure où la crise sanitaire implique de repenser nos façons de travailler et d'habiter, construire des bâtiments confortables et respectueux de la santé constitue plus que jamais un enjeu majeur. Alors quels sont les leviers ou les outils pour garantir la santé et le confort des occupants au sein des bâtiments? Comment les bâtiments peuvent-ils répondre aux enjeux de santé? Et surtout, comment peuvent-ils accompagner au mieux les usagers tout au long de leur parcours de vie? C'est à ces diverses questions que nous allons essayer de répondre grâce à la participation de nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Sachez en tout cas que cette émission est organisée en clôture du dossier Construction 21, pilotée par Medieco, Conseil et Formation et l'Alliance HQE-GBC, qui a vocation à faire mettre en lumière les bonnes pratiques et des retours d'expérience. Je vous propose donc de débuter la première table ronde.
Les dossiers Construction 21, première table ronde.
Et pour cette première table ronde, nous allons aborder la thématique suivante, santé et confort, vers une approche holistique de la santé et du confort. Et nous allons aborder cette problématique ou cette question avec nos invités, tout d'abord avec Claire-Sophie. Bonjour Claire-Sophie.
Bonjour.
Claire-Sophie, vous êtes directrice associée chez Medieco. J'aimerais que vous nous présentiez rapidement l'activité de votre bureau de conseil, s'il vous plaît.
Alors nous, Medieco, on est un bureau d'études et de conseil. En fait, on accompagne les acteurs de la construction à mieux intégrer les thématiques de santé et de bien-être des futurs occupants dans toutes les typologies de projets, que ce soit aussi bien les bureaux, les bâtiments de logement, mais également tous les lieux d'accueil, notamment de la petite enfance, les crèches et les écoles.
Alors, on va approfondir avec vous la question qu'on se pose pour cette première table ronde. À vos côtés, nous avons également Rémi Bauchet. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Rémi, vous êtes chef de projet pour le réseau breton bâtiment durable. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est le réseau breton bâtiment durable en quelques mots, s'il vous plaît?
Alors, bien sûr, le réseau breton bâtiment durable, c'est un centre de ressources techniques régionales, donc qui s'adresse à l'ensemble des acteurs de la filière construction en Bretagne. Notre public, ce sont les maîtres d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, les artisans, évidemment, les filières matériaux, etc. Et donc, notre rôle à nous, c'est d'animer ce réseau d'acteurs de deux manières. D'abord, en facilitant les rencontres et les échanges entre ces professionnels, et d'autre part, en produisant des ressources techniques qui sont destinées à les accompagner dans les évolutions de leur métier vers un bâtiment qui soit à la fois plus économe, plus sain et plus confortable.
Alors justement, vous allez nous parler de retour d'expérience dans quelques instants. Et à vos côtés, nous aurons également Ambre Erard. Bonjour Ambre.
Bonjour.
Alors Ambre, vous êtes responsable d'unité qualité d'air, perméabilité, vous voyez c'est difficile à dire, énergie au CEREMA. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le CEREMA s'il vous plaît?
Oui, c'est le centre d'études sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Nous sommes un établissement public administratif qui est sous double tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Notre raison d'être, en fait, c'est d'apporter une expertise qui soit technique et scientifique et surtout impartiale vu qu'on est un établissement public, initialement plutôt à destination de l'État et de plus en plus on se tourne vers les collectivités territoriales.
Donc autant dire que vous avez beaucoup de travail et beaucoup de choses à nous dire dans le cadre de cette table ronde.
On s'en est pas.
N'est-ce pas ? Alors on va commencer avec vous Claire-Sophie si vous le voulez bien. Donc comme je disais, vous êtes directrice associée chez Medieco. Alors j'aimerais avec vous qu'on parle justement de votre regard sur justement cette crise sanitaire qui a clairement bouleversé le monde ainsi que les présentation de nos espaces de vie.
Tout à fait. C'est vrai qu'avec tout le contexte sanitaire qu'on vient de vivre et qu'on vit d'ailleurs encore aujourd'hui, et puis les différentes périodes de confinement, où on a toujours travaillé sur les thématiques de santé en sachant bien qu'on passe la majeure partie du temps dans les bâtiments.
Oui.
Et du coup, c'est vrai que pour nous, ce n'est pas nouveau de s'interroger sur l'impact sanitaire de nos lieux de vie. Mais c'est vrai qu'avec les différentes périodes de confinement vécues, beaucoup de gens se sont réinterrogés finalement sur le temps qu'on passait dans les bâtiments. Et puis, on a passé beaucoup de temps également dans les logements. Et finalement, comment est-ce que ce cadre bâti pouvait impacter notre santé? Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant cette période de qualité de l'air intérieur, notamment avec la contamination virale. Mais l'idée du contexte sanitaire, c'est peut-être aussi de rebondir sur ce contexte sanitaire pour dire qu'il n'y a pas que la contamination biologique dans les bâtiments et qu'on a que le cadre bâti a une diversité d'impacts sur la santé qui touche aussi bien l'air, mais plein d'autres thématiques.
C'est quoi pour vous le confort idéal dans un bâtiment ?
Ah, le confort idéal dans le bâtiment. Je ne sais pas si...
Quelle est votre définition, en tout cas, la vôtre ?
Alors, je ne sais pas si nous, on peut avoir une définition du confort global, parce que ce qu'on va vraiment essayer de mettre en avant, c'est qu'on va essayer de rappeler qu'on construit d'abord pour des gens qu'on va mettre dans les bâtiments,
oui.
Et que toutes les occupants d'un bâtiment vont avoir des besoins, et qu'être bien dans un bâtiment, finalement, c'est voir comment est-ce que le bâtiment peut répondre à l'ensemble de ses besoins, et qui va bien sûr être différent d'une personne à une autre. D'un type de population à une autre, qu'on parle d'enfants, de personnes plus âgées, d'actifs au bureau, on a tous des besoins différents auxquels le bâtiment doit s'adapter et répondre.
Alors quand vous dites que vous voulez faire une approche, ou en tout cas aborder une approche holistique de la santé des bâtiments, qu'est-ce que ça veut dire une approche holistique, pour qu'on puisse comprendre ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire une approche holistique ? Je pense qu'en introduction de tout ce dossier, ce qu'il est rappelé dans l'édito du dossier de Construction 21 sur la santé et le bien-être, c'est d'abord la définition de la santé. Et je pense que c'est une définition qui est trop peu connue aujourd'hui et qui pourtant est quand même pas toute neuve, puisqu'elle a été définie en 1946 par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, après le contexte sanitaire, on ne présente plus l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, ils ont défini la santé pas uniquement comme l'absence de pathologie, mais comme un état complet de bien-être à la fois physique, donc le fait que le bâtiment effectivement ne nous rende pas malade,
oui.
Mais aussi mental et social. Ça veut dire que le bâtiment doit aussi garantir notre équilibre physiologique, psychologique et social. Et donc, une approche holistique de la santé, c'est comment est-ce que le bâtiment va répondre à tout ça. Alors bien sûr, il y a toutes les thématiques plutôt connues sur le cadre bâti qui va respecter la santé, avec des thématiques comme la qualité de l'air intérieur, comme l'environnement lumineux, comme l'ambiance acoustique, l'environnement hygrothermique ou encore les champs électromagnétiques. Mais c'est vraiment avoir une vision plus large quand on parle d'approche holistique. C'est aussi s'interroger sur comment demain les bâtiments peuvent promouvoir les comportements de vie sains, comment est-ce qu'on va favoriser l'activité physique au sein même du bâtiment par la conception architecturale, comment est-ce que dans les bâtiments on peut promouvoir une alimentation plus saine, également favoriser la cohésion sociale. Et là, on s'en est rendu compte aussi avec le contexte sanitaire qu'il n'y a pas que des pathologies respiratoires qui existent, mais également, on va voir notamment peut-être apparaître aussi des maladies de l'isolement. Les gens se sentent seuls parce qu'on a été on a vécu des périodes de confinement, et le bâtiment peut apporter des solutions à tout ça pour favoriser la cohésion entre les personnes et participer au bien des individus.
Alors évidemment, cette approche, elle s'adapte à tout type de bâtiment, hein, autant des bâtiments résidentiels que des EHPAD, par exemple.
Exactement.
Oui.
Alors, aussi les bâtiments résidentiels, les bâtiments de bureau également, parce qu'aujourd'hui, on le verra dans le dossier, mais on parle aussi beaucoup de qualité de vie au travail.
Tout à fait.
Alors, la qualité de vie au travail a toujours, c'est un sujet qui, depuis quelques années, c'est vrai, est au cœur des discussions, mais encore plus aujourd'hui, parce qu'on se réinterroge sur comment revenir dans nos lieux de travail, comment faire en sorte de travailler tous ensemble dans des lieux qui peuvent être plus ou moins confinés. Donc, on va également aborder cette typologie de bâtiment. Et puis, ce qui est essentiel aussi, c'est de s'intéresser aux populations dites plus vulnérables, et notamment les enfants, parce que physiologiquement, ils sont en plein développement, tous leurs organes sont en plein développement, et c'est comment aussi est-ce qu'on travaille sur les bâtiments qui vont accueillir les populations futures, comment est-ce qu'on respecte leur développement, à la fois physiologique, mais également comment est-ce qu'on répond à leurs besoins, qu'ils soient sensibles, sensoriels. Il y a tout un tas de solutions à apporter.
Donc pour leur offrir des espaces de travail ou des espaces de vie de qualité, en quelque sorte.
De qualité, qui vont promouvoir leur performance aussi au quotidien, c'est que ce sont des lieux d'apprentissage, des lieux de travail, donc on a aussi besoin de se sentir bien pour aussi donner le meilleur de nous-mêmes.
Quand on est bien au travail, on travaille mieux. Ça, c'est sûr. Alors, on va poser la question à Rémi Bauchet, chef de projet pour le réseau breton Bâtiment Durable. Rémi, vous allez peut-être nous parler aussi d'un retour d'expérience qui a permis de mieux cerner les concepts relatifs au confort visuel et à l'ambiance visuelle qui, pour vous, sont importants, je crois.
Exactement, c'est un travail qu'on a mené il y a quelques mois en partenariat avec l'agence Qualité Construction.
Oui.
Parce que sur ces questions de confort, on s'est aperçu qu'on parlait beaucoup de confort thermique, voire de confort acoustique, c'est des notions qui sont assez bien appréhendées, mais que finalement, le confort visuel dans le bâtiment, c'était un petit peu le parent pauvre, quoi. Et donc, on a essayé de creuser cette question en allant sur le terrain, très concrètement, en menant des retours d'expérience. On a été visiter plus d'une vingtaine de bâtiments, discuter avec les architectes, avec les usagers, pour comprendre comment cette question était appréhendée de façon très concrète, à la fois dans les phases de conception et dans les phases d'usage du bâtiment. Et ça nous a permis de mettre en avant un certain nombre à la fois de bonnes pratiques et de dysfonctionnements. Et c'est l'objet de la publication qu'on a rédigée à l'issue de cette enquête.
Alors, pardonnez-moi pour qu'on comprenne un peu mieux. Qu'est-ce qu'un confort visuel dans un lieu de travail pour vous?
Alors, ça on parle de confort visuel.
Oui.
Alors, d'abord, il faut répondre aux besoins. Le besoin élémentaire, c'est d'avoir une quantité de lumière qui soit suffisante pour faire ce qu'on a à faire dans le bâtiment.
Parfois, je peux vous dire qu'on n'a pas de très très bonne lumière quand on travaille. On est d'accord. Exactement, soit elles sont trop puissantes, soit pas assez, en fait. Effectivement.
Tout à fait. Il y a la notion de quantité, mais il y a aussi la notion de qualité. Alors, donc le besoin, s'assurer d'abord qu'on a un besoin suffisant, c'est s'assurer qu'on a la bonne quantité de lumière qui est disponible en fonction de ce qu'on doit faire à ce moment précis dans le bâtiment. Mais ça peut être une tâche ménagère comme un travail plus professionnel. Après, il y a la notion de confort qui n'est pas tout à fait la même. Alors, pour définir la notion de confort, en fait, on parle plutôt d'absence d'inconfort. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. L'inconfort premier, en termes de, ça vient de l'éblouissement. Donc, on a de l'inconfort à partir du moment où le soleil va se refléter, ou une lumière artificielle va se refléter d'une manière ou d'une autre dans notre champ visuel, va nous empêcher finalement de travailler ou d'œuvrer correctement. Et puis, il y a une troisième dimension qui est un peu plus subtile, c'est l'agrément. Parce que ce qui est confortable n'est pas forcément toujours agréable. Et là, on est sur une notion qui est beaucoup plus subjective, si vous voulez.
Et
donc, cette notion d'agrément, elle est quelque part aussi à appréhender. C'est des choses qui sont de plus en plus travaillées, dans des lieux publics, dans des ERP, par exemple, dans une salle d'attente d'un lieu de consultation, dans un hôpital, où voilà, il va y avoir des choix de couleurs, d'ambiance lumineuse qui vont permettre d'avoir une composition qui crée cet agrément.
Donc, ce qui veut dire que le confort visuel, on doit y penser dès la conception même de du bâtiment. On est bien d'accord, hein?
Complètement, c'est dingue.
Donc il faut travailler avec qui, avec quel genre de corps de métier? C'est-à-dire, il faut travailler avec les architectes avant tout? Il faut travailler avec l'ensemble des acteurs du bâtiment?
Alors, il faut avant tout travailler avec l'architecte, hein. Il est de sa compétence de créer un bâtiment confortable sur tous les aspects, y compris le confort visuel. Il est formé pour ça, mais évidemment ça va faire intervenir ensuite un certain nombre de corps de métier. On parle de l'eau dans le bâtiment, il y a un certain nombre de lots techniques. Là ça va concerner à la fois le lot menuiserie, hein, les professionnels qui vont poser les fenêtres, quel type de matériel on va choisir, mais ce sont aussi des lots techniques comme le lot électricité qui va gérer tous les systèmes d'éclairage et de pilotage de cet éclairage.
Donc les bonnes pratiques pour réceptionner et distribuer la lumière le mieux possible.
Complètement.
Très bien. Complètement. Vous allez rester avec nous, hein, Rémi, parce que c'est une réflexion très intéressante qui complète justement celle de Claire-Sophie. On va avoir l'avis aussi d'Ambre Erard. Bonjour Ambre, heureux, bonjour. Alors, Ambre, vous, au CEREMA, vous avez surtout travaillé sur l'exposition au radon, et a priori, qui est responsable du décès de 3000 personnes par an en France. Alors, écoutez, j'ai appris plein de choses en lisant cet article. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est que l'exposition au radon?
Oui, alors le radon, c'est un gaz qui partage avec pas mal d'autres gaz la caractéristique d'être imperceptible par nos cinq sens. Il est inodore, incolore, sans saveur.
Oui.
Ce qui est spécifique dans son cadre à lui, c'est qu'il est radioactif. Il est d'origine naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, il est issu de la désintégration de l'uranium-238, qui lui-même est présent de manière naturelle, à des concentrations diverses, dans les sous-sols, dans certaines roches que nous avons dans nos sous-sols. Et du coup, cette propriété radioactive le rend cancérigène, notamment pour le poumon, puisque c'est un gaz, donc on l'inhale. Il va finir de se désintégrer dans nos poumons, et à cette occasion, il irradie les poumons, ce qui le rend radioactif. Effectivement, ça fait à peu près 3000 morts par an, donc en ordre de grandeur, c'est similaire.
Ah bah oui. C'est pas rassurant.
C'est similaire au nombre de morts par accident de la route.
Ah oui, très bien. Donc, pardonnez-moi, mais rassurez-nous, on n'est pas quand même tous exposés au radon.
Alors, on a plus ou moins suivant déjà des raisons purement naturelles. Est-ce que la question, c'est de savoir s'il y a suffisamment d'uranium-238 pour émettre beaucoup de radon. Ça, c'est un premier élément. Et puis, un deuxième élément va dépendre vraiment du bâti. En fait, tant qu'on est à l'extérieur, le radon, quand il arrive à la surface, il va se diluer. Et donc, on ne va pas atteindre des seuils suffisamment importants pour mettre en danger notre santé. En revanche, dans le bâtiment, suivant certaines caractéristiques techniques du bâtiment, il peut s'infiltrer à l'intérieur, premièrement. Et deuxièmement, une fois qu'il s'est infiltré, il peut s'accumuler si on a un défaut de renouvellement d'air, notamment. Et c'est là que si on a une exposition chronique, donc on parle bien de chronique, hein, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain.
Oui.
Là, potentiellement, effectivement, on peut déclencher un risque de cancer du poumon.
Alors, de quelle façon vous accompagnez les acteurs publics et privés, justement, pour faire face à ce fléau ou à ce danger, je dirais?
On a plusieurs modalités d'intervention. Alors, on a une première partie qui est très opérationnelle et très technique, notamment pour toutes les collectivités qui ont des obligations en termes de gestion des taux de radon dans leurs établissements recevant du public.
Oui.
Donc là, on peut les accompagner pour faire des bilans techniques, en fait, pour essayer de comprendre comment le radon s'infiltre, par où. Mmh. Ensuite, comment est-ce qu'il va se disperser dans le bâtiment et à cause de quoi il s'accumule. Au regard de ces différents critères, on pourra leur proposer des axes de remédiation pour qu'ils puissent résoudre cette problématique radon et faire baisser autant que possible les taux.
Mmh. Autre chose,
une première piste.
Oui, allez-y, je vous en prie, pardon.
Ensuite, les retours d'expérience qu'on va avoir après post-travaux sont des sources précieuses pour nos ministères dans tout ce qui va être composition des stratégies nationales de lutte contre ce gaz.
Mmh.
Qui donc fait l'objet de stratégies dans le plan national radon notamment. Donc là, ils ont besoin d'avoir effectivement un retour terrain pour savoir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui ne l'est pas,
oui.
Et dans quelles circonstances est-ce que ça l'est. Et puis le dernier volet, c'est on a aussi une partie formation des acteurs de terrain, donc notamment des professionnels, et puis sensibilisation un peu générale du public pour déjà que ce risque soit connu, parce que comme vous le disiez en introduction, c'est quelque chose qui n'est pas très connu.
Et comment est-ce qu'on peut, pardonnez-moi peut-être que ma question est bête, mais comment est-ce qu'on peut, nous, de façon individuelle, se protéger du radon? Est-ce qu'il y a des choses à faire?
Oui, bien sûr. Alors non, ce n'est pas une question bête du tout, au contraire. On peut faire plusieurs choses. D'abord, la première, c'est de savoir si oui ou non on est exposé au radon.
Alors,
et pour ça, il existe des dosimètres.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
Parce que comme j'ai dit qu'il est imperceptible, vous ne pouvez pas le voir de vos yeux. Donc, vous pouvez acheter des dosimètres. Ce n'est pas très cher. C'est une vingtaine d'euros pièce.
Très bien.
Et à partir de là, vous devez le poser pendant 2 mois, ce qui vous permet d'avoir un ordre de grandeur de l'exposition qui est la vôtre dans votre logement notamment. À partir de là, si vous avez des seuils importants, la première chose, ça va être de jouer sur le renouvellement d'air. Et ce qui est le plus simple, c'est l'aération. Donc, l'aérer
régulièrement. Ouais.
Et puis après... Voilà, régulièrement. Après, il va falloir s'intéresser aussi, si on a un système de ventilation, essayer de voir s'il est fonctionnel ou pas et comment on peut l'améliorer si ce n'est pas le cas. Mmh. S'il est entretenu aussi, ce n'est pas toujours le cas. Et puis le dernier point, c'est de travailler sur les points d'entrée du radon puisqu'il vient du sous-sol. Il faut essayer d'étanchéifier au maximum l'interface entre le sol et le bâtiment pour l'empêcher de rentrer.
Bon, et ça s'appelle comment le truc qu'il faut acheter là?
Il faut des mastiques d'étanchéité. Il n'y a pas une marque spécifique.
Mais votre petite machine. Non, mais je veux dire votre petite machine là qu'il faut acheter. Comment ça s'appelle?
Ah, le dosimètre.
Ah, le dosimètre.
Ça s'appelle un dosimètre.
Très bien. Donc on va tous aller acheter un dosimètre une fois qu'on a écouté cette émission, quoi. C'est ça le but.
Très bien.
D'accord. Bon, très bien. Alors on va peut-être faire intervenir pour conclure justement cette première table ronde. Claire Sophie, Rémi Baucher, vous étiez au courant de cette menace du radon sur notre santé?
Alors, on est un petit peu concernés en Bretagne, donc c'est en effet un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder.
Le radon est breton ou pas?
Alors, en tout cas, dans les territoires où il y a un sous-sol granitique, c'est le cas, et du granit en Bretagne, on en a un tout petit peu.
Vous voyez, vous avez pas que la météo qui est géniale, hein, vous avez vu? Oui, dites-moi, Claire-Sophie.
Juste pour ceux qui ont une curiosité à satisfaire, vous pouvez aller sur le site de l'IRSN, vous tapez dans un moteur de recherche « Connaître le potentiel radon de ma commune » et du coup, vous arrivez sur une page internet avec une petite fenêtre dans laquelle vous tapez le nom de votre commune.
D'accord.
Et elle vous donne le radon en fonction de là où vous habitez et ça vous donne un premier élément d'information.
Très bien. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez envie d'ajouter quelque chose avant de conclure cette première table ronde? Rémi, est-ce que vous avez des choses à rajouter?
Écoutez, moi, je crois qu'on a fait le tour.
On a fait le tour, très bien. Ambre, on va peut-être donner le site du CEREMA, parce que c'est important.
Mm-hmm. C'est Cerema, ouais, mais si vous tapez Cerema sur Internet, vous tomberez dessus.
Très bien. Et Medieco, vous êtes aussi sur le net, je suppose, Claire-Sophie.
Oui, mais aussi sur le bon. Net, sur medieco.fr.
Très et bien.
Si je peux juste...
Je vous en prie.
Un message global, mais je pense que ce qu'il faut retenir, effectivement, là, on a parlé un peu de... On a parlé de lumière, on a parlé de radon, oui. On a parlé de différentes thématiques. Mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres. Et quand on parlait au tout début d'approche holistique de la santé, ça signifie que sur un projet, on va essayer de regarder l'ensemble des approches et pas se focaliser sur une approche. L'idée, c'est pas de pousser un curseur, mais de pousser l'ensemble des curseurs.
Très bien.
Des enjeux.
Bon, en tout cas, merci pour votre participation pour cette première table ronde. On va continuer le débat avec une seconde table ronde qui arrive dans quelques instants avec d'autres invités. Claire-Sophie, merci. Rémi Baucher et Ambre Erard, merci encore. Et écoutez, à bientôt. Merci beaucoup.
Merci.
On va tout de suite faire la deuxième table ronde. On va tout de suite accueillir les prochains invités. À tout de suite.
Les dossiers Construction 21, seconde table ronde.
Dans cette seconde table ronde, nous allons aborder le sujet suivant, prendre en compte la santé et le confort dans les projets. Nous allons surtout parler de méthodologie et retour d'expérience avec trois nouveaux invités. Et nous allons accueillir tout de suite Marion Bosque. Bonjour Marion.
Bonjour.
Marion Bosque, vous êtes directrice des opérations chez Octopus Lab. Avec vous, on va surtout parler de qualité d'air intérieur, mais surtout du projet de la petite fabrique d'Ivry-Levassor. Vous allez nous en dire quelques mots dans quelques instants, mais un petit mot peut-être sur Octopus Lab. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, Octopus Lab est une jeune entreprise spécialisée dans la prévision de la qualité d'air intérieur. Nous sommes en fait à la fois bureau d'études et éditeur de solutions logicielles pour la construction, rénovation et l'exploitation de bâtiments sains.
Très bien. On va en parler avec vous dans quelques instants. Vous restez avec nous. On va accueillir Jean-Luc Renéro. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Jean-Luc, vous êtes donc... Ah, pardonnez-moi, je n'ai même pas votre présentation. Jean-Luc, bah, vous allez vous présenter comme un grand. Allez-y.
Alors, moi je dirige un cabinet de conseil en ergonomie et en même temps donc je suis le vice-président de la fédération Synov qui regroupe donc les bureaux d'études, conseil, ingénierie numérique et événementiel.
Eh bien écoutez, bienvenue, merci beaucoup Jean-Luc, vous êtes avec vous, on va parler de la méthodologie pour la santé et le confort dans les bâtiments et on va parler avec vous d'ergonomie également et on va accueillir aussi Simon Davis. Bonjour Simon.
Bonjour à tous.
Vous allez bien,
Simon ? Je suis Simon Davis.
Ah, c'est Simon Davis,
Excellemment.
Excellemment. Bah, écoutez, c'est parfait. On est content de voir des gens heureux. Alors, vous voulez vous présenter vous-même ? Allez-y. Faites comme ça, au moins, vous allez suivre votre collaborateur, Jean-Luc. Allez-y.
Ok, très bien. Donc, je suis Simon Davis. Je suis directeur d'AI Environnement, qui est un pôle d'expertise environnementale, qui intervient sur les projets pour faire du conseil en qualité environnementale et développement durable. Et j'appartiens à un groupe un peu plus grand, qui est le groupe AIA, architecte ingénieur associé, avec, comme son nom l'indique, des architectes et des ingénieurs au service du projet.
Très bien. Bienvenue à vous, en tout cas. Claire-Sophie Couedevez. Claire-Sophie, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Alors, Claire-Sophie, ma très chère Claire-Sophie, vous allez vous représenter ? Hein, comme ça, tout le monde fait la même chose. Allez-y.
Claire-Sophie Couedevez. Moi, je dirige une petite structure Medieco qui est spécialisée sur les thématiques de santé dans le bâtiment. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner tous les acteurs du bâtiment à mieux intégrer les thématiques de santé dans leurs projets de construction ou de rénovation.
Parfait. Alors, vous allez intervenir pour la seconde fois puisque vous avez participé à la première table ronde. Mais on va commencer avec vous, Marion Bosque. Alors, vous allez surtout nous parler de votre logiciel qui s'appelle Indalo, je crois, et qui a permis de garantir la qualité de l'air intérieur du bâtiment dès la phase de conception. Et ça, c'est la classe quand même.
Effectivement, depuis deux ans maintenant, nous commercialisons Indalo, qui est le seul logiciel BIM de simulation de qualité d'air intérieur existant sur le marché aujourd'hui. Donc, ce logiciel assiste les bureaux d'études et les assistants en maîtrise d'ouvrage dans leur choix de matériaux et de systèmes de ventilation pour garantir un air sain dans leur future construction. Donc, on l'utilise aussi en interne chez Octopus Lab pour réaliser nos propres études en réponse à la demande de maître d'ouvrage. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous avons réalisé une étude pour la ville de Paris sur la petite fabrique d'Ivry-Levassor qui a fait l'objet de notre article publié dans Construction 21.
Vous avez mis combien de temps pour mettre en place un tel logiciel qui a demandé quand même pas mal de travail, je suppose ?
Alors oui, effectivement, il faut savoir que le logiciel est issu à la base d'un projet de recherche qui a duré 3 ans, en 2013-2016. Donc projet qui avait été financé par l'ADEME, qui a été mené par l'Université de Strasbourg et de La Rochelle. Et c'est notamment mon collègue Maxence Mendez, qui est le fondateur d'Octopisable, qui a créé en fait le moteur de calcul derrière ce logiciel qui prend en compte vraiment toute la réactivité chimique qui se produit dans une pièce. Donc c'est 2000 réactions chimiques sur un millier d'espèces différentes, donc c'est très, très conséquent.
Comme vous le disiez tout à l'heure, il a déjà été testé sur le projet de la petite fabrique d'Ivry-Levasseur, c'est ce que vous nous disiez?
Oui, tout à fait, oui, il a été testé dans le cadre de ce projet. On l'a également validé sur d'autres projets en amont d'Ivry-Levasseur.
Elle est où cette petite fabrique d'Ivry-Levasseur?
Alors, elle est en région parisienne. C'est Ivry-Levasseur.
D'accord. Et ok, très bien. Alors, quel retour d'expérience vous avez eu depuis? Est-ce que vous avez déjà eu les résultats de la mise en route justement de ce logiciel?
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que la fabrique d'Ivry-Levasseur était vraiment un projet exemplaire mené par la ville de Paris, un projet qu'ils voulaient sain, résilient, et justement, ils ont choisi des matériaux majoritairement biosourcés pour ce projet. Le résultat en fait de simulation a montré plusieurs choses. Donc, notamment grâce à ce choix de matériaux, les niveaux de formaldéhyde, qui est un polluant cancérogène et réglementaire, étaient excellents dans le bâtiment. Et même lorsque l'école était inoccupée, donc quand la ventilation était inactive, alors que on a comparé à des scénarios. Donc la même école, mais ici avec des matériaux plus classiquement utilisés, qu'ils auraient utilisés pour d'autres écoles, par exemple. Et là, les résultats étaient catastrophiques, on peut dire. Ah oui. Enfin, les taux de formaldéhyde, donc ce même polluant, dépassaient largement la valeur réglementaire de 30 microgrammes par mètre cube.
Très bien. Donc ça veut dire qu'au sein de Octopus Lab, vous êtes en tout cas convaincu qu'on peut aujourd'hui concilier impact environnemental et impact sanitaire. C'est possible?
Tout à fait, effectivement. C'est vraiment le but aussi de notre outil, c'est d'allier l'efficacité énergétique des bâtiments, l'impact sanitaire. Effectivement, par simulation.
Très bien. On va poser la question à Jean-Luc Renéro qui est avec nous. Jean-Luc, au sein de Synov, comment est-ce que vous vous penchez sur ces questions très importantes pour notre avenir, mais surtout pour notre futur et ce qu'on vit aujourd'hui, surtout avec la crise sanitaire et ce qui nous est arrivé quand même depuis mars?
Alors, la Fédération Synov, par rapport à cette thématique de la santé d'un bâtiment, apporte, on va dire, une réponse de prestation intellectuelle quand même assez large. Donc, au-delà des intervenants que nous venons d'entendre, vous pouvez avoir à Synov des gens qui vont vous appeler et vous apporter donc des compléments sur les ambiances lumineuses, des ingénieurs spécialisés par rapport à ça, donc des ingénieurs spécialisés en thermique, en acoustique, mais aussi des personnes qui pourront vous apporter de la méthodologie, donc soit sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, soit sur des analyses des usages beaucoup plus en amont ou du management de projet. Donc Synov aujourd'hui regroupe 14 syndicats professionnels différents avec des compétences donc très élargies qui interviennent dans le bâtiment, on va dire des locaux industriels, des locaux à usage tertiaire, des locaux à usage loisir ou culturel.
Alors je crois que vous prenez plus particulièrement très au sérieux l'ergonomie, c'est ça qui pour vous est plus importante ou même complémentaire de ce qu'on peut faire dans un bâtiment.
Je suis obligé de le prendre au sérieux parce que c'est mon métier. Oui. Et si je ne le prends pas au sérieux, je pense que je ne vendrai pas beaucoup de prestations.
Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte, pardonnez-moi Jean-Luc, juste pour qu'on comprenne, qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte l'ergonomie dans sa globalité pour qu'elle soit complémentaire à la mise en route d'un bâtiment?
Aujourd'hui, quand vous faites la conception donc du bâtiment, donc il y a une logique, puisque on part d'une intention, d'une étude de faisabilité, d'opportunité, on fait une pré-programmation, et ensuite on fait la conception, l'exécution et la réception du bâtiment. L'ergonome peut intervenir donc tout au long du process de la conception, le plus généreusement bien sûr en amont, si possible, pour questionner ce que l'on appelle l'usage, c'est-à-dire qu'il va lui procéder vraiment à une analyse des organisations du travail, pour donner donc les, on va dire, les meilleurs points de vue sur comment l'utilisateur final va se comporter. Dans un bâtiment, l'utilisateur, il n'est pas unique. D'abord, dans une même entité, il y aura plusieurs unités de travail qui vont travailler différemment. Tout à l'heure, il y a la personne parlait d'une crèche. Dans une crèche, vous avez 5 à 6 typologies d'agents opérateurs, mais vous avez des personnes qui sont ce qu'on appelle des opérateurs connexes, qui vont faire la maintenance, qui vont faire de la livraison de matériel, qui vont faire donc du nettoyage. Et dans une conception, l'ergonome va, écrivant à l'avance ce qu'on appelle des séquences d'utilisation, décrire comment les gens vont vivre dans le bâtiment et traduire ça en exigence. Donc en exigence de qualité de l'air, en exigence de lumière, en exigence de confort acoustique et en même temps en exigence bien sûr spatiale. Comment donc définir l'aménagement le plus adapté possible et non pas avoir l'opérateur qui s'adapte au bâtiment.
Donc finalement, c'est une science humaine complémentaire à la gestion technique du bâtiment, en quelque sorte.
Tout à fait, c'est très complémentaire. De toute manière, un ergonome travaille rarement seul. Il est toujours en équipe pluridisciplinaire. Nous, quand nous intervenons, on est toujours 4 ou 5 compétences différentes. Le confrère qui est là d'AIA, dernièrement, on vient de faire 3 projets avec AIA, où on était toute une équipe pluridisciplinaire. Et on accompagne les architectes et les ingénieurs dans la réflexion créative.
Très bien. Alors, juste avant de donner la parole à Simon Davis, j'aimerais que vous me parliez de la métropole de Nice avec cette pépinière d'entreprise sur laquelle vous avez travaillé, je crois.
Voilà. Donc, la demande, c'était la métropole donc, souhaite implanter donc, un centre expérimental d'études et d'innovation donc, pour accueillir donc, des startups, faire un hôtel d'entreprise et puis un design lab. Et donc, au-delà de la variabilité des futurs utilisateurs, avec des modes de fonctionnement totalement différents, on avait donc des exigences à appréhender, qui étaient quand même la sécurité, donc des bâtiments qui ne sont pas accessibles à tout le monde, avec des gens qui arrivent à des heures différentes. On avait donc à résoudre aussi un projet pédagogique de la métropole qui souhaitait donc faire une vitrine avec des possibilités donc d'exposition de rencontres et puis des modes d'utilisation des gens qui sont dedans entre un hôtel d'entreprise et une start-up. Ils n'utilisent pas pareil et donc l'aménagement, donc la programmation de l'aménagement intérieur devait répondre donc à ces différentes exigences et donc ça se traduit par des configurations d'espaces différentes, par des matériaux, par de l'architecture intérieure qui est différente. Et tout notre travail, ça a été donc d'aller faire des entretiens et des observations pour faire des analyses sur des situations de référence avec les futurs habitants, sachant que les futurs habitants, quand ils sont en start-up, des fois, ils restent que 3 mois et ils s'en vont. Donc, on a un renouvellement et c'était aussi préconiser des aménagements qui soient facilement transformables.
Très bien. Alors, si vous le voulez bien, Jean-Luc, on va quitter Nice pour aller du côté de Lyon avec vous, Simon Davis. Simon, vous êtes là. Alors, Simon, on va parler avec vous d'un retour d'expérience maintenant de votre côté sur un projet de rénovation d'un hall classé dans la ZAC de Lyon Confluence. C'est cela ? Alors, d'abord, comment a été mis en place ce projet et quel a été le but de cette mise en route ?
Alors, très simplement, bon, c'est un projet de rénovation d'une halle existante, une ancienne chaudronnerie située dans le quartier des Confluences à Lyon, donc vraiment en plein centre-ville. Je tiens à saluer d'ailleurs au passage les architectes d'Urparchtech qui ont été avec nous là dans cette superbe aventure.
Vos collaborateurs.
Oui, tout à fait. Et on a eu une équation qui paraissait au départ assez insoluble à résoudre, qui était d'avoir à la fois un haut niveau de confort, parce que le bâtiment est amené à héberger des startups du numérique qui travaillent pour la plupart de manière assez intense dans ces locaux. En même temps, avoir un impact environnemental le plus réduit possible, notamment par la frugalité, c'est-à-dire le moins de matériaux possible, le moins de technologie possible. Oui. Donc avoir une approche low-tech et aussi avoir quand même une approche low-cost, c'est-à-dire pas mettre en place des moyens financiers énormes pour garantir ce confort. Mm-hmm. Et donc, voilà, on avait cette sorte d'équation où on se dit, voilà, ça va être très délicat. Mm. Et ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on a pu y arriver justement en poussant cette notion du confort thermique en dehors des sentiers battus. C'est-à-dire pas juste en raisonnant par rapport à la norme, par rapport juste à la notion de température, mais vraiment en revenant aux fondamentaux, quelque part, de l'équilibre thermique d'un individu.
Vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ces choses que vous avez mis en place pour répondre justement aux exigences de cette performance énergétique ou de ces performances énergétiques ?
Tout à fait. Alors, très simplement, bien qu'on soit à Lyon et bien qu'on ait des périodes de chaleur assez intenses dans cette ville, on s'est donné l'objectif de ne pas mettre de climatisation dans ces locaux. Et donc, pour résoudre ça, parce que quand on faisait la simulation thermique du bâtiment, on voyait bien qu'il y avait des dépassements de température importants, on a mis en place une série de trois dispositifs, on va dire, frugaux et assez complémentaires. Mm-hmm. Le premier, c'est jouer sur le bioclimatisme du bâtiment et notamment la ventilation naturelle et l'inertie thermique. Mais ça, c'était pas suffisant. Et donc, il a fallu compléter cette approche par le recours à des brasseurs d'air actionnables par les usagers qui permettent en fait de créer une vitesse d'air en contact avec les gens qui travaillent et ainsi diminuer la température qui est ressentie par les individus. C'est-à-dire que ça ne refroidit pas, mais la température ressentie par les individus va diminuer et ça va les maintenir vraiment dans un seuil de confort assez intéressant. Et le troisième dispositif qu'on a mis en œuvre, c'est qu'on a étudié très finement la question de la protection solaire et du refroidissement par les arbres du parti paysager autour du projet. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, mettre en place des dispositifs aussi simples comme des arbres pour la protection solaire, pour atteindre les exigences de confort d'aujourd'hui, il faut mettre en place des moyens d'ingénierie, des moyens de simulation très importants pour pouvoir avoir une modélisation suffisamment fine de ces choses-là et garantir le confort. Alors maintenant, le bâtiment est livré, donc on a des retours sur le confort ressenti et c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a pas eu de plainte sur le bâtiment malgré les deux étés assez puissants qu'on vient de rencontrer.
Alors justement, Simon, comme vous avez été aussi un des rédacteurs-chefs du dossier, vous avez donc une vue globale de ce qui a été dit, les choses sur lesquelles, les éléments sur lesquels le travail a été fait. Selon vous, est-ce qu'en France, on a quand même pas mal avancé sur ces questions, justement, du bâtiment et de la mise en place d'environnements agréables pour les gens qui y habitent ou qui y travaillent ? Ou alors, est-ce qu'on est en retard par rapport à d'autres pays ?
Alors bon, bien sûr, on a vu que la dimension du confort et de la santé était très holistique, donc je dirais qu'il y a des lieux où on est plutôt en avance et d'autres champs thématiques sur lesquels on est plutôt en retard. Mais moi, j'aime bien les challenges, et donc je dirais plutôt qu'on est globalement en retard sur cette prise en compte un peu plus globale de la dimension du confort, et notamment tout le volet adaptatif du confort. C'est-à-dire qu'un usager qui est sensibilisé, un usager qui comprend tout simplement comment son bâtiment fonctionne ou qui est plus sensibilisé aux enjeux, par exemple, d'écologie, il va être à même d'être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de températures un petit peu plus élevées, etc. Et si on restreint la norme à une température, à une vitesse d'air, etc., on ne peut pas du tout exploiter tout ce volet du confort adaptatif qui me semble, moi, tout à fait intéressante.
Très bien.
Un autre sujet, sans doute, là où on est un petit peu en retard, je dirais que c'est vrai qu'on pose beaucoup la question du confort, comme ça a été dit tout à l'heure, d'ailleurs, je le relève, comme l'absence d'inconfort. Alors que la clé du confort, c'est quelque chose de positif, au contraire. C'est le bien-être, et même au-delà du bien-être, c'est le bien-vivre. C'est-à-dire la question de la mise en mouvement aussi autour de cette question du confort. Et donc, on a trop souvent réduit la notion de confort à une série de paramètres physiques pris indépendamment les uns des autres. Et c'est au contraire leur confrontation et le contexte qui vont donner du sens à la notion de perception du confort. Mmh. Par exemple, la vue d'un espace vert, la présence à proximité d'un lieu favorisant les interactions sociales, bah, c'est autant de facteurs qui vont concourir à un meilleur bien-être dans les locaux, à une meilleure perception des températures, même si elles sont amenées à évoluer, par exemple,
c'est vrai que c'est plus agréable,
avec le dérèglement climatique.
Effectivement.
Exactement.
C'est plus agréable d'avoir, par exemple, une terrasse un peu verte ou alors un jardin en face. Ou oui, effectivement, on travaille avec plus de sérénité. Hein.
Mm. Oui, tout à fait. Et finalement, on revient à une dimension du confort beaucoup plus active par les usagers, où on accepte aussi de se déplacer en fonction de la saison, d'aller dans différents endroits. Et donc, on rejoint beaucoup la question de l'architecture vernaculaire, en fait, ce qui faisait le confort de nos vieux bâtiments qui sont, entre guillemets, toujours très confortable aujourd'hui, notamment en période estivale.
Après le bien vivre, on va parler de bien travailler avec vous, Claire-Sophie Couet-Devez. Vous avez participé à la première table ronde et j'aimerais votre avis justement sur la deuxième thématique qu'on est en train d'aborder pour prendre en compte la santé et le confort dans les projets, mais surtout les retours d'expérience. Alors vous aussi, vous allez nous parler d'un retour d'expérience, je crois.
Exactement. Bah, en fait, c'est un retour d'expérience qui va pouvoir illustrer ce que Simon vient de vous exposer. Donc, si on peut savoir si bien qu'à travailler dans un bâtiment, c'est se limiter à avoir des plantes vertes, malheureusement, on n'est pas très loin.
Bah,
donc, l'idée, c'est vraiment une approche encore la plus globale. Et en fait, quand on parle de qualité de vie au travail, finalement, quand Simon disait bien vivre, la qualité de vie au travail, c'est bien vivre au travail. Et bien vivre au travail, ça veut dire, bon, il y a forcément la qualité en soi et la tâche qui est proposée au travail, mais il y a aussi le cadre bâti et la façon dont il est organisé qui va pouvoir contribuer à tout ça. Et en fait, on va rester dans la région lyonnaise puisqu'on accompagne actuellement un projet, alors un gros bâtiment puisqu'il y a 29 000 m² d'espace. C'est le centre régional, le Crédit Agricole Centre-Est, donc le siège régional agricole, qui, alors c'est un projet qu'on accompagne depuis 2017. On a été intégré très en amont pour répondre au concours dans l'équipe de conception qui a été menée par deux agences d'architecture, l'atelier Thierry Roche et puis Archi Group. Et en fait, on a été intégré très tôt parce que très en amont, ils ont souhaité intégrer la santé comme un des éléments fondateurs du projet. Et donc, l'idée en nous intégrant, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait porter les thématiques de santé et de bien-être au travail tout au long du projet, en travaillant à la fois avec l'équipe de conception, mais également avec le maître d'ouvrage, c'est-à-dire les collaborateurs, l'équipe de direction et les collaborateurs du Crédit Agricole. Donc voilà, c'est un projet qui est actuellement en cours, que le chantier va commencer là très prochainement. Et donc, sur ce projet, une des particularités, c'est que, alors, on a bien sûr mené une démarche d'intégration de la santé. Et puis, au tout début, le Crédit Agricole a souhaité communiquer un peu et valoriser la démarche qui a été menée en s'appuyant. Aujourd'hui, il existe plusieurs labels qui portent la santé. Donc, un qui vient outre-Atlantique, le label WELL, et puis on a un petit français qui s'appelle Osmose. Et donc, on a d'abord comparé ces deux démarches sur le projet pour voir un peu à quoi notre projet déjà actuellement répondait. Et puis, finalement, le Crédit Agricole a orienté son choix vers le label Osmose. D'une part, c'est un label qui est plus adapté au contexte français. Et puis, il y avait des passerelles avec la démarche de haute qualité environnementale qui était aussi menée sur le projet.
Très bien. Alors, ce qu'on peut dire, peut-être qu'on va conclure, si vous le voulez bien, avec Simon Davis. Simon, est-ce qu'on peut dire finalement qu'il y a de nombreuses forces vives qui se posent en tout cas les bonnes questions autour de ces questionnements pour un bâtiment plus sain et plus agréable?
Ah bah là vous en avez quelques-unes de ces forces vives autour de la table. Effectivement, c'est poser aussi la question de la complexité du confort à travers toutes ces nuances. Ne plus regarder qu'un seul des sens, mais peut-être les regarder aussi en même temps d'un point de vue multisensoriel. Et voilà, c'est la question d'introduire de la nuance sur cette question du confort et d'en faire même un socle de projet. Qui est pas juste l'atteinte d'une exigence programmatique, mais où on va prendre un vrai parti dans le parti architectural sur le bâtiment, sur cette notion de confort, et en le réconciliant bien sûr avec les enjeux écologiques qui sont maintenant un passage obligatoire dans l'ensemble des projets Et donc, c'est un vrai défi que de réconcilier aussi santé et écologie sur les projets.
Donc, l'évolution est en marche et ça fait plaisir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je voulais tous vous remercier, Marion Bosque pour Octopus Lab. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Luc Renéro de Synov. Merci à vous, Simon Davis, pour votre éclairage, directeur de AIA Environnement et administrateur de l'Alliance GBC, et un des rédacteurs en chef du dossier. Et Claire-Sophie Couet-Devez pour Medieco. Est-ce que j'ai tout bon? Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre éclairage à tous et encore merci d'avoir été avec nous pour ce dossier de Construction 21. Merci de nous avoir suivis sur Radio Immo pour ce dossier de Construction 21 qui a traité justement du bien-être dans les bâtiments. On se retrouve très vite pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis.
Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.